Bonsoir Hervé.
Bonsoir Hervé, tout de suite, nous déhoussons les raquettes.
1, 2, 3.
Bonsoir, je suis Mathilde Serrel.
Et je suis Martin Kénéen.
Je suis Jeanne Puchol.
Je suis Laurent-Frédéric Bollet.
Bonsoir, je suis Olivier Norek.
Ping pong. La culture sans limite. Oh, yeah.
Ce soir, un ping-pong entre fiction et réalité, avec des flics au bord de la rupture parmi les tolards et les braqueurs, et une bavure policière qui hante la mémoire collective.
Avec Olivier Norek, lieutenant de police qui s'est mis en disponibilité pour écrire des polars et s'est fait une place dans le milieu, avec deux premiers romans, Code 93 et Territoire, le dernier, Surtension, est toujours chez Michel Lafon, a obtenu tout récemment le prix du polar européen du Point en 2016.
Et avec le monôme de zombie constitué du tandem Puchol et Bollet qui signe chez Casterman, la bande dessinée Contre-coup, un tombeau graphique à la fois documentaire et polar tragique, élevé à la mémoire de Malik Houssekine, étudiant battu à mort par la police en 1986.
Mais tout de suite l'essentiel de l'actualité avec vous Stanislas Vazak, bonsoir.
Bonsoir, 49 morts et 53 blessés, voilà le dernier bilan de la fusillade d'Orlando en Floride. Le tireur Omar Mateen a délibérément visé une boîte de nuit homosexuelle avant d'être abattu par la police. Cet Américain d'origine afghane a eu plusieurs contacts avec les forces de l'ordre et sa motivation djihadiste ne fait guère de doute. L'État islamique a officiellement revendiqué cette attaque en présentant Mateen comme un soldat du califat. Le FBI cherche maintenant à savoir si Daesh a organisé la tuerie ou si le tireur a agi de sa propre initiative comme un loup solitaire. Une chose est sûre, Omar Mateen, alors qu'il était retranché avec des otages dans la discothèque, a appelé les secours pour clamer son allégeance à l'État islamique. La fusillade d'Orlando relance tragiquement la campagne présidentielle américaine. Barack Obama parle d'un acte de terreur et de haine, mais il refuse d'évoquer la piste de l'islam radical. Même prudence chez Hillary Clinton. La candidate démocrate veut renforcer le contrôle des armes et lutter contre l'autoradicalisation de certains citoyens américains. À l'opposé, Donald Trump estime que cet attentat valide sa proposition d'interdire temporairement aux musulmans l'entrée sur le territoire américain. Le candidat républicain va même jusqu'à reprocher à la communauté musulmane américaine de ne pas coopérer avec les autorités pour dénoncer les suspects. Nous y reviendrons à 22h avec notre invité, l'universitaire Alix Meyer, spécialiste de la civilisation américaine à l'université de Bourgogne-Franche-Comté. En France, la mobilisation contre la loi travail continue à dominer l'agenda social. Une nouvelle journée d'action nationale est prévue demain. La CGT espère relancer un mouvement qui commence à s'essouffler. Ainsi, à la SNCF, il n'y avait plus aujourd'hui que 4,6% de grévistes selon la direction, qui en avait compté deux fois plus la semaine dernière. Le trafic restera perturbé demain, même s'il s'améliore sur l'ensemble du réseau. Première condamnation à Marseille après les incidents de ce week-end en marge de l'Euro de football. Entre 2 et 3 mois ferme pour 3 supporters anglais, mais c'est un Français qui a écopé de la peine la plus lourde, un an ferme pour violence aggravée. En revanche, il n'y avait aucun hooligan russe parmi les prévenus. Ce sont pourtant eux qui sont accusés d'avoir agressé les Anglais. La presse britannique dénonce aujourd'hui la passivité de la police française face à ces hooligans venus de Russie. Un mot de la météo demain, temps très perturbé sur l'ensemble du pays. Seul le pourtour méditerranéen devrait échapper à la pluie et aux orages. Une timide amélioration est espérée à l'ouest en fin de journée. Les températures maximales seront inférieures aux normales de saison, de 15 à 24 degrés du nord au sud. 4 sur France Culture. Zoé Sfès, bonsoir.
Bonsoir Stanislas, bonsoir à tous.
Zoé, c'est lundi, vous revenez pour le journal de la culture à 19h30.
Tout à fait, dans le dossier du jour, on s'intéressera à l'animation française puisque c'est aujourd'hui le premier jour du festival d'Annecy qui va durer jusqu'à vendredi, consacré donc à l'animation, qui met à l'honneur l'animation française cette année. Comment se porte-t-elle cette animation? C'est la plus vivace après celle des États-Unis et du Japon, mais pourtant elle doit faire face à des problèmes de délocalisation et à la concurrence féroce des Américains.
Merci Zoé.
Mathilde Serrel, Martin Kénéen. Ping-pong.
Les événements de la soirée et de la nuit feront l'essentiel de cette édition. C'est donc vers 1h30 ce matin qu'un jeune étudiant de Paris Dauphine, Malik Houssekine, est mort. Au quartier latin, barricades, voitures incendiées, une petite centaine d'étudiants pénètrent même à l'intérieur de la Sorbonne pour l'occuper. Les forces de l'ordre interviennent pour dégager la faculté et ses abords. Et c'est au cours de cette charge, donc, effectuée par des policiers sur des motos, que l'accident est arrivé.
Ils étaient deux par moto, un qui était derrière avec une matraque et l'autre qui conduisait.
et ils se sont arrêtés au niveau du feu rouge, au niveau de la rue Racine. Et là, je les ai vus à trois sauter et s'acharner contre un mec.
L'accident est arrivé. La préfecture de police vient de publier il y a quelques instants un communiqué. Il indique que le SAMU a été appelé vers 2h du matin, décalage donc avec l'heure des faits.
Il est resté, oh là, facilement une heure et quart, parce que les pompiers, ils sont venus juste après ça, sur entrée, parce qu'ils sont passés. Ils tabassaient même des gens, même des clients ici. Ils tabassaient n'importe qui.
Plus jamais ça, ce sera le thème de la manifestation de demain.
Un projet de loi ne mérite pas la mort d'un jeune. Demain, c'est une journée de solidarité et de recueillement vis-à-vis de Malik sur le thème « Plus jamais ça ». Plus jamais un projet de loi réprouvé par l'ensemble des utilisateurs. Plus jamais ça.
1986, ce sont les premiers récits médiatiques de l'affaire Malik Oussekine. On ne parle pas de bavure, ni d'un étudiant de 22 ans battu à mort par la police dans la nuit du 5 au 6 décembre 1986, en marge d'agitation, de manifestation contre ce qu'on appelait à l'époque les lois Devaquet de la réforme universitaire. Non, on parle d'un accident. Et c'est ce récit médiatique, d'une certaine manière, et politique de l'époque qui va être le point de départ de ce qu'on peut lire aujourd'hui, à savoir Contre-coup, cette bande dessinée qui est publiée chez Casterman, récit graphique et historique de cette affaire. Laurent-Frédéric Bollet, vous avez signé le scénario. En quoi c'est ce que vous avez appelé la dissimulation, dans la préface de cette bande dessinée, qui vous a poussé à écrire?
Écoutez, oui, parce que c'est une affaire évidemment tragique et qui est restée dans toutes les mémoires. 30 ans après, nous en parlons, la preuve. Et effectivement, dans cette histoire, rien n'a été vraiment clair et tout a essayé d'être caché dans un premier temps. Alors, entre les mauvaises informations, je ne vais pas dire les fausses informations, mais les mauvaises informations qui circulent dès le début, les extraits que vous venez
Malik
de passer.
Malik Oussekine, déjà.
Oui, on parle d'un étudiant à Dauphine, ça n'est pas le cas. Lorsqu'on écoute le bulletin d'info de France Inter. Bon, c'est pas France Culture, désolé, c'est France Inter. C'est un petit peu la même chose. De 7h du matin, on parle d'un homme de 30 ans qui aurait été tué. Alors, il avait bien 22 ans. Bon, vous voyez, dès le
c'est
début...
C'est retranscrit dans la bande dessinée. Hein.
Oui,
il y a,
tout à fait.
Il y a des cases donc qui sont dédiées à ce qui sort de l'autoradio.
Voilà, entre France Inter ou Antenne 2 à l'époque, nous avons effectivement fait une petite visite à l'INA et donc ce sont des vraies citations. Bon, dès le début, donc, il y a un flou dans cette histoire. Et comme nous sommes en plein cœur d'une bavure, eh bien, il n'est pas difficile d'imaginer qu'effectivement, il y a des choses qui se passent en coulisses et on essaye de dissimuler, donc pour reprendre le mot sur lequel vous me lancez, on essaye de dissimuler
qui est le vôtre,
des
hein.
choses. Et c'est aussi le mien, mais c'est surtout celui de la vérité. Puisque entre les premières réactions policières, qu'elles soient au niveau des constatations du décès et des premières décisions qui sont prises pour cacher un petit peu la vérité, je crois qu'effectivement on était dans une époque peut-être ancienne. Est-ce qu'elle est révolue? On l'espère, je n'en suis pas si sûr, mais le fait est qu'effectivement, dans les premières heures, on maquille un petit peu la vérité.
Laurent-Frédéric Bollet, vous dites que cette histoire vous a collé à la peau. Je vous cite toujours que ça vous a hanté. Alors comment vous, Jeanne Puchol, qui est en charge des dessins dans ce récit graphique, historique et fictionné aussi, on y reviendra plus tard, vous avez donné forme sur le papier à ce qui hante Laurent-Frédéric Bollet?
Moi, je me le suis collé à la peau pendant un an et demi, quoi, un an et demi de la réalisation de l'album. C'est à peine une image, hein, parce qu'effectivement, dessiner une bande dessinée, c'est extrêmement long. 200 pages, elle fait 200 pages. Et ce côté extrêmement dilaté, puisqu'en fait, ces 200 pages racontent quelques heures avant et quelques heures après le décès de Malik Oussekine, c'est une forme d'immersion, en fait, dans l'histoire. Et donc, ça veut dire que tous les jours, pendant un an et demi, j'étais avec les personnages, j'étais dans cette action extrêmement dilatée, presque minute par minute dans certains passages.
Oui, on peut juste préciser les personnages, c'est-à-dire que le point de vue est éclaté, effectivement, les narrations du côté de la police, du côté du médecin légiste, du commissaire de police, du politique, des voisins, des parents de Malik Oussekine, et c'est aussi pour éviter trop de pathos que vous l'avez fait. En tout cas, on viendra sur ces personnages et ce récit qui est particulier.
Olivier Norek, Là, on l'entend, Laurent Frédéric Bollet et Jeanne Puchol, d'une certaine façon, se sont retrouvés hantés, obsédés par cette affaire Malik Oussekine et le fantôme de Malik Oussekine. Il y a chez vous, dans votre nouveau polar, le capitaine Coste, qui est lui aussi hanté par la disparition d'un jeune homme kidnappé au début du roman, donc sur tension, qui paraît chez Michel Lafon. Il y a d'ailleurs un flic hanté aussi, oui, dans Contre-coup, votre BD Puchol et Bollet.
C'était bien voulu.
Mais vous, Olivier Norek, vous qui avez 15 ans de bons et loyaux services au sein du SDPJ, donc du service départemental de la police judiciaire de Seine-Saint-Denis, il y a une expérience qui a pu vous hanter et qui vous hanterait encore aujourd'hui, une expérience policière ?
Oui. Le terme qui a été utilisé, maquiller la vérité, c'est quelque chose contre lequel je me bats, évidemment, puisque j'ai eu l'occasion d'écrire des romans policiers. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais écrire l'histoire d'un flic qui court après un assassin et à la fin il l'arrête. 1800 polars sortent par an. Donc je voulais me démarquer et j'ai trouvé une solution assez rapide. C'est que je me suis dit que mes polars deviendraient des tribunes de tout ce qui n'a pas été dit, de tout ce qui a été caché, de tout ce qui a été travesti, de tous les mensonges. Dans Code 93, mon premier polar. Alors on parle souvent de mon fameux devoir de réserve.
Oui, je rappelle que vous êtes en disponibilité de la police nationale, donc vous êtes toujours.
Voilà, mais je suis toujours lieutenant de police, donc je devrais avoir ce devoir de réserve et j'essaie de le garder au maximum. Mais il y a un moment donné où la morale et où nos combats sont plus forts que ce genre de petites choses qui devraient nous faire taire, comme le devoir de réserve. Donc dans Code 93, je parle moi-même des trafics, des chiffres de la criminalité. Dans Territoire, je parle moi-même des collusions entre certaines mairies du 93 et la délinquance. Et dans Surtension, je parle de l'inefficacité de la prison en tant que telle, puisqu'on oublie le concept de réinsertion. On oublie aussi le concept de oisiveté dans la prison, c'est-à-dire que les prisonniers ne font rien de leur journée au lieu de passer des diplômes ou d'apprendre des métiers qui leur permettraient la réinsertion. Et je parle aussi du manque de budget et de la police et de la justice pour faire un bon travail. Mais bizarrement, personne d'autre n'en parle, puisqu'on préfère maquiller la vérité. Et quand moi je vois deux personnes qui, 30 ans après, se décident à faire 200 pages sur un sujet qui a été trop souvent abordé de manière floue, eh ben je peux que être d'accord avec eux et aller dans leur sens. La vérité est quelque chose de bien trop précieux pour laisser passer, ou alors pour la laisser de côté sous des prétextes de devoir de réserve ou de j'aimerais bien passer capitaine ou j'aimerais bien que si un jour je veux redevenir policier, j'ai pas de problème. Ben, j'ai décidé de mettre ça de côté, de mettre ça entre parenthèses, parce qu'à un moment donné, voilà, la morale et puis être français, c'est ça aussi. C'est savoir mettre le doigt là où ça fait mal et savoir revenir sur notre histoire. Revenir sur notre histoire, c'est une preuve de courage et ils en ont fait preuve en tout cas, je pense.
Merci.
Le territoire de vos romans, le terrain que vous occupez, Olivier Norek, c'est la Seine-Saint-Denis particulièrement et toujours. Donc, vous avez peut-être pu être confronté ou pas à ces situations, on va dire, assez exécrables entre jeunesse et police. Je ne sais pas si vous nous en direz un mot, mais en tout cas, on a l'impression, lorsqu'on est 30 ans plus tard et qu'on lit cette bande dessinée de Laurent Frédéric Bollet et de Jeanne Pujol, qu'il y a un climat qui garde un certain nombre d'invariants. C'est-à-dire que les rapports, on s'insulte copieusement de communistes et de fachos en 1986. Je ne sais pas si c'est exactement les mêmes noms d'oiseaux, mais on sent que chacun est prêt à en découdre. Et puis, il y a aussi une certaine forme de condescendance par rapport à la révolte, qui est très transcrite dans cette bande dessinée. On les prend soit pour des intellos qui ont décidé de se révolter, ces jeunes gens qui sont contre, je le rappelle, une réforme de l'université parce qu'ils craignent que tout le monde n'ait pas les mêmes accès après le baccalauréat à toutes les filières. C'était ça le contexte. Et puis il y a aussi cet édito du Figaro que vous reproduisez intégralement qui s'appelle Les monomes des zombies et où on s'en prend à leur culture, notamment leur culture rock qui serait peut-être aujourd'hui leur culture rap.
Oui, et dont la phrase clé qui est resté dans l'histoire, c'est ce fameux sida mental.
Voilà, c'est
la jeunesse est atteinte du sida mental.
Ils ont peur de manquer de mœurs, avachis. Voilà tous leurs sentiments révolutionnaires. Est-ce que pour vous, voilà, Laurent Frédéric Bollet, il y a des invariants que vous aviez envie de donner comme ça à voir 30 ans plus tard?
Ah oui, non mais incontestablement, l'idée est bien de faire un livre, certes, qui part d'une expérience personnelle et d'un ressenti à l'époque. Quand on dit que je suis hanté, pourquoi je suis hanté par ce livre, j'accepte le mot, hein, y a pas de problème. Disons que ça ne m'a jamais quitté pour ça, la simple et bonne raison que je suis étudiant moi en 1986. Oui. Donc je ne manifeste pas, je l'avoue franchement, et quelque part je le revendique.
Vous êtes
aussi
à Assas.
Je suis à Assas. L'environnement fait que c'est pas une fac qui manifeste. J'ai un environnement familial qui fait que je ne sors pas la nuit pour manifester, me retrouver éventuellement au milieu de gens dans la rue et voir me faire matraquer. Mais j'observe la situation. Et quand le lendemain, je me lève, le samedi 6 décembre, et que j'apprends que quand même un jeune homme est manifestement mort sous les coups de matraques de policiers, et qu'au même moment je lis dans le Figaro Magazine un édito de Louis Powells qui est d'une injure insigne contre la jeunesse, bah moi, jeune, je me révolte en quelque sorte et je dis, alors là, je suis pas d'accord, là, stop, on arrête. Bon, ce qui fait que 30 ans plus tard, j'écris un livre. Voilà, on va dire, c'est ça le cheminement intellectuel et personnel par rapport à ce livre. Mais le fait est que vous avez, je pense, raison, dans la mesure où, effectivement, et on le voit encore, évidemment, cette année où Jeanne et moi ne pensions pas, effectivement, que notre livre sortirait dans un contexte qui ressemble à ce point-là, à ce que nous décrivons, puisque je vous cache pas que l'année dernière, non, nous ne savions pas qu'il allait y avoir une réforme pour la loi travail et que la jeunesse, au début du printemps, allait sortir massivement dans la rue et qu'allait ressurgir les interrogations sur l'usage policier et les violences policières. Bon, donc moi, on va dire que je me concentre dans un premier temps sur mon livre et sur Malik Houssekine.
On va dire, pour être précis, il y a eu récemment l'affaire d'un jeune à Rennes qui a perdu un œil, dans un contexte de
ça n'échappe à personne que nous sommes dans l'actualité. Et ça, évidemment, que nous ne l'avions pas calculé, mais on ne peut que constater qu'il semble bien y avoir, oui, des attitudes et des agissements, des actions récurrentes, oui, 30 ans après.
Actions récurrentes.
Alors, Olivier Norek, voilà, ouais, justement, voudrais votre réaction parce que vous avez eu votre expérience de terrain quand même et donc vous avez votre retour là-dessus.
Bien sûr, action récurrente. Voilà, moi en 86, j'avais 11 ans pour vous dire la vérité. Action récurrente, je ne sais pas. Je sais que là actuellement, il y a des manifestants et il y a des policiers, mais il faut aussi rappeler qu'au milieu, il y a 400-500 casseurs qui sont des parasites de cette manifestation. Qu'est-ce que c'est qu'un CRS heureux? Ça pourrait être un titre de livre. Qu'est-ce que c'est qu'un CRS heureux? Un CRS heureux, c'est un CRS qui est sur le côté du trottoir et qui assure la sécurité des manifestants qui ont un message à passer. Ce message, il est important parce que ce message, quasiment la plupart des Français le partagent, c'est la non-compréhension d'une loi que 80% des Français ne comprennent pas. Enfin, voilà, la non-compréhension d'une loi. Et alors qu'on voudrait débattre avec les mots, on nous met un 49-3 qui nous enlève nos mots. Et en nous enlevant nos mots, ce qui nous reste, c'est la manifestation. Et donc, dans cette rue-là, il y a des gamins sur les places de toute la France pour Nuit Debout qui veulent une nouvelle société, qui veulent une nouvelle politique. Et ça, ce message, il est important à faire passer. Il y a des gens qui sont inquiets de cette loi El Khomri, 80% des Français, je le répète. Et nous, autour de ça, il y a des CRS qui font en sorte que cette manifestation se passe bien. Et au milieu, on a 500 casseurs qui envoient des boules de pétanque, qui envoient des hélices de bateau, qui envoient des bouteilles d'acide chlorhydrique sur les policiers, près de 500 policiers aux urgences. Je ne sais pas si, à cette époque, en 1986, il y avait autant de casseurs et autant de gens qui étaient ultra-violents envers la police.
Mais précisément, Olivier Norek, si on parle des invariants et de ce qui a changé en 30 ans, d'un côté, c'est pas des CRS heureux qui sont à l'origine de cette bavure et de ces coups qui ont été responsables de la mort de Malik Houssekine.
C'est ce qu'on appelait à l'époque des voltigeurs.
Voilà, de voltigeurs.
Voilà, on appelait à cette époque les voltigeurs. Et justement, je suis rentré dans la police en 1999 et nous avions à l'époque un moniteur de sport qui était ancien voltigeur. Et autant vous dire que dès la deuxième séance de sport où il nous expliquait sa vision de la police et sa vision des interventions, ça a clashé immédiatement parce que dès 99, en fait, dès les années 2000, c'était une nouvelle police.
Mais précisément, est-ce que d'un côté on n'a pas une nouvelle police qui a tourné le dos à un certain nombre de pratiques ou en tout cas de d'habitudes qui ne sont plus des habitudes, même si ça peut ressurgir à l'occasion. Et de l'autre côté, on sait que dans un certain nombre de quartiers français, ce qui a pu changer aussi par rapport aux étudiants qui sont somme toute assez inoffensifs tels qu'ils sont représentés par Puchol et Bollé dans leur bande dessinée, même si c'était pas toujours le cas.
Mais je pense qu'ils sont pas loin de la vérité. Il y a rien à voir avec un étudiant même... 80. Enfin, il oui, y a rien à voir avec les manifestations de 86 et les manifestations de la loi El Khomri.
Mais aujourd'hui, rappelons-le, il faut faut, pour un policier, un CRS, être en tenue anti-émeute en plein jour dans un certain nombre de quartiers, ce qui n'était pas le cas. Il fallait pas porter d'armure pour maintenir l'ordre en 86.
Et la même chose pour les journalistes. Il fallait pas qu'ils portent des gilets pare-balles eux-mêmes, des casques eux-mêmes. Oui, je pense qu'on est arrivé à un niveau de violence. Je pense qu'on est arrivé à une absence de communication. Mais c'est pas dû essentiellement au rapport entre police et manifestants. Nous, on est malheureusement le bras armé de l'État. On nous demande une mission et c'est une mission de sécurisation. Alors après, je reviens pas sur les violences policières.
Il y a des invariants dans le ressenti. On voit très bien, Jeanne Puchol réagissait effectivement avec nous sous votre trait que tout cela prend forme. Mais il y a des scènes, notamment du collègue de celui qui a donc levé ce qu'on appelait le bidule à l'époque, la matraque, sur Malik Oussekin, qui se confie dans des scènes d'affliction, de cauchemar, d'angoisse.
Bien sûr, mais je voulais revenir un petit peu sur ce terme d'invariant. Pour moi, c'est pas tant la notion d'invariant que la notion que 2016 est le résultat, enfin, c'est la continuité. Moi, je sais qu'en en me replongeant dans l'année 1986, j'ai vu tout ce qu'il y avait en germe dans ces années-là, dans les années 80, et qui a débouché sur la situation beaucoup plus critique qu'on vit actuellement, avec entre autres les difficultés dans les cités, la manière dont la marche des beurs de 83 a été complètement vidée de son sens. Et c'est d'ailleurs pour ça que le personnage de Hassine, du petit garçon, je trouve très beau, et la scène où...
C'est le fils des voisins de la famille.
Voilà, exactement. Et Laurent Frédéric, dans une très jolie scène, qui est pratiquement la dernière scène du livre, la mère lui dit, elle pleure, elle est malheureuse évidemment pour la mère de Malik Oussekin, qui est sa voisine, et elle lui dit... mon fils, t'auras un avenir, etc. Et le gamin lui dit, c'est quoi un avenir? Et je veux pas croire que tu as pas pensé au fait que l'avenir de ce gamin-là, qui aurait donc maintenant 38 ans à peu près, ben on sait ce qu'il en est. Après, j'ai peut-être pas entamer, si on pourrait peut-être entamer la partie de ping-pong ou d'escrime.
Avec Olivier Norek.
Je verrais moucheté parce que moi j'ai fait ces manifestations et on n'a pas vu exactement la même chose. Et je vais juste dire un truc parce que vous allez voir que moi je suis quand même la vieille gauchiste.
Vous parlez à ce moment-là, Jeanne Puchol, des dernières manifestations, celle contre la loi El Khomri.
Voilà, la vieille gauchiste de service qui continue à manifester malgré son âge avancé et qui donc a été très surprise, mais même affreusement peinée de voir que maintenant, alors que de son temps, dans les manifs très durs qu'il y avait dans les années 70, qui étaient interdites et où ça bastonnait sévère, c'était à la fin des manifestations que ça bardait, et ben là, c'est au début. J'ai fait plusieurs manifestations en étant toujours en tête et en me retrouvant dans l'impossibilité de prendre le métro à la fin de la manif. Et là, je ne comprends pas. C'est une stratégie que je ne comprends pas. Empêcher des manifestants de se disperser, je ne comprends pas. Et les casseurs, on ne va pas entamer le débat sur les casseurs, mais je dirais que ce n'est pas le problème. De l'empêchement de la dispersion. Les casseurs, à mon avis, avec 2 000-3 000 policiers sur le terrain, même s'ils sont 500 pleins de mauvaises intentions, on peut les neutraliser. Par contre, empêcher des pauvres manifestants aux cheveux blancs comme moi, hein, vous en êtes témoin, ça se voit pas à la radio, mais
cheveux argentés.
Oui, on se comprend, on est à peu près dans le même état capillaire.
Vous balancez Martin Kenéen.
Dans le même état capillaire, en tout cas. Voilà. Bon, mais on va peut-être refermer la parenthèse parce que c'est peut-être pas
et,
le sujet de ce
repartir
soir.
Dans l'écriture et la fiction.
Mais elle me dérange pas, cette parenthèse. Je m'appelle Coste, Victor Coste, je suis capitaine au SDPJ 93. Le flic fit un rapide calcul et s'étonna lui-même de tout ce qui avait pu se passer dans un laps de temps si court. Il y a 12 jours exactement, le groupe Crime 1 a été chargé de l'affaire David Sebag, un enlèvement avec demande de rançon qui s'est fini par sa mort. La psy reprit la parole. C'est dans ces circonstances que vous avez enquêté sur Yacine Chelli, si j'en crois le dossier. Interpellé, emprisonné, puis libéré, vous vous sentez aussi responsable? Le flic répondit, je me fous de lui, je pense qu'à sa victime. Pourtant, il semble qu'il ne sera jamais puni. N'est-ce pas la finalité de votre travail? J'ai longtemps pensé comme vous, mais je réalise qu'il y aura toujours un Yacine Chelli quelque part, que c'est sans fin, et qu'il pourrisse dans une cellule ou pas, il n'existe jamais de réparation à un homicide. Rien que la justice puisse proposer, la justice n'est qu'une demande de vengeance, et la vengeance n'a jamais soulagé les âmes.
Jamais. Tu sais ce que je veux dire? La société, c'est juste une petite guerre.
Olivier Norek, lisant ses œuvres, le témoignage du capitaine Coste dans Surtension, son nouveau roman chez Michel Lafon, les doutes quant à la justice, à la possibilité de réparer par l'action policière, tout cela matiné d'éléments documentaires, des extraits du film Commissariat de Virgile Vernier et Hélène Clipper. On entendait une femme en état d'ébriété, en garde à vue, qui s'emportait contre la police et surtout contre la difficulté à changer les choses, à transformer cette société qu'elle qualifie comme une, elle décrit comme une petite guerre. Votre héros, et je crois que c'est un des sens du titre de votre roman, Olivier Norek, Surtension, fait l'expérience du point de rupture, le point de surtension, quand il comprend que il n'y a pas de réparation possible après un homicide de plus dans sa longue carrière de policier qui ressemble peut-être à la vôtre, puisque je le rappelle, vous avez 15 ans d'état de service au sein du SDPJ du 93. Est-ce que le point de rupture, c'est quand on se met à douter du sens que peut avoir le métier de policier?
Écoutez, avec le manque de moyens qu'on a et parfois le manque de résultats, le doute sur le métier de policier ne peut pas être le point de rupture. À mon sens, le point de rupture, c'est quand on manque d'humanité. Le point de rupture, c'est quand on considère le mis en cause comme un numéro ou comme un nouveau. Une nouvelle personne à mettre en prison. Autant les tribunaux se sont intéressés à la personnalisation de la peine, autant nous aussi on doit s'intéresser à la personnalisation du mis en cause, tout autant que celui de la victime. Je pense que le point de rupture, le point de surtension pour un policier, c'est quand il se déshumanise, parce que on peut dire ce qu'on veut sur les policiers, mais on est 250 000 flics et gendarmes qui, 24 heures sur 24, et tous les jours de l'année, sommes dirigés vers la protection du citoyen. Et dès qu'on se déshumanise de ça, et dès qu'on oublie notre métier premier, qui est la prévention et non pas la répression, alors je pense qu'on arrive à ce point de rupture, à ce point de surtension, où on devient un mauvais policier.
Mais est-ce qu'on peut échapper à ce point de surtension quand, vous le disiez dans vos précédents romans, vous le dites aussi dans ce nouveau roman, Olivier Norek, la pression politique des discours répressifs après le moindre fait divers et avec une vitesse hallucinante, quand la culture de l'évaluation, du chiffre à tout crin, pèse sur les effectifs policiers, sur les officiers, sur tous les policiers et gendarmes?
Il y a une phrase qu'on nous apprend, c'est que les policiers sont des baïonnettes intelligentes. C'est-à-dire que oui, nous sommes le bras armé de l'État. Effectivement, nous sommes là pour parfois être répressifs, mais dès qu'il y a un ordre immoral ou dès que quelque chose nous gêne, alors on peut, en tant que policier, être contre cet ordre. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des machines et jamais on entendra dire « mais c'est l'ordre que j'ai reçu ». Ça, ce n'est pas un alibi, ça n'est pas une excuse. C'est l'ordre que j'ai reçu. Parce que vous entendez bien que cette phrase rappelle des échos bien lointains. C'est l'ordre que j'ai reçu, que c'est quelque chose d'inacceptable. Si cet ordre est immoral, alors il faut aller à l'encontre de cet ordre. Donc des baïonnettes intelligentes et des flics qui ne doivent pas prendre en considération, ou alors le moins possible, cette pression politique, cette pression du chiffre. Par exemple, chez les stupes, on leur dit régulièrement « on s'en fout que vous enquêtiez pendant 6 mois sur un gros dealer, on préfère que vous arrêtiez 25 vendeurs ». Faites-moi confiance que chez les stupes, ça n'arrête pas des petits vendeurs. Ils n'écoutent pas cette information et eux, ils savent que pour se battre contre justement la vente de stupéfiants, l'intérêt, c'est d'avoir le gros bonnet. Et c'est vrai que le gros bonnet, il fait la une, mais une fois dans l'année, parce qu'on a besoin de 6, 8, 12 mois, parfois plusieurs années pour réussir à tomber dessus.
Surtout donc, voilà. Quand il est associé
donc, c'est le politique,
à
en fait.
Un policier haut gradé au sein des stupes.
Mon Dieu, je ne savais pas que j'allais en fin de compte aller si proche de l'actualité. Vous avez tout à fait raison. Je pense qu'un bon flic, c'est aussi un flic qui ne fait pas qu'écouter sa hiérarchie. Un bon flic, c'est pas un chien dressé. Un bon flic, c'est un loup avec sa meute. Et c'est justement une baïonnette intelligente, quelqu'un qui sait dire non, cet ordre ne me convient pas.
Jeanne Puchol, Laurent-Frédéric Bollet, vous êtes venu en meute, vous êtes deux en tout cas, vous êtes sinon des baïonnettes intelligentes, des plumes intelligentes comme celle d'Olivier Norek, vous Jeanne Puchol au dessin et Laurent-Frédéric Bollet au scénario, donc de contre-coup, cette idée qu'il n'y a pas de réparation possible, qu'au fond il n'y a pas autre chose qu'une volonté de vengeance dans la justice, c'est quelque chose que vous aviez à cœur en faisant cette bande dessinée qui serait autre chose qu'une demande de justice pour Malik Oussekine?
Non, je crois que c'est plus large que ça et beaucoup plus subtil dans la mesure où précisément les personnages de policiers qui sont donc... Alors je précise en fait que sur un fond de récits et de personnages authentiques comme Malik Oussekine bien sûr et les présentateurs télé, enfin tous les personnages ayant réellement existé qui apparaissent dans l'histoire, le récit est porté par une dizaine de personnages qui eux sont fictifs, plausibles mais fictifs.
Symboliques.
Voilà, et qui sont, l'intérêt c'est qu'ils sont symboliques. Et en particulier, nos personnages de policiers sont, ils ont une certaine épaisseur. Ils sont pas du tout univoques.
Hein, sont des baïonnettes intelligentes et hantées.
Oui. Et je sais que, par exemple, moi, j'ai tenu à revoir le film de Depardon sur la police, là, Fait divers, dont je me souviens très bien, je l'avais vu à sa sortie, donc en 83. Parce que je trouvais qu'il avait une dimension humaine et qu'on voyait dans la toute dernière scène, donc ce sont des policiers, des gardiens de l'ordre, quoi, des gardiens de la paix, qui interviennent pour à Saint-André-des-Arts, je sais pas quoi, et on sent qu'ils ont peur. Ils ont très très peur parce que à ce moment-là, ils embarquent, il y a quelqu'un qui est blessé et la foule qui ne comprend pas se met à taper sur le panier à salade parce qu'ils voient, enfin à l'époque, police secours intervenait avec des voitures de police, quoi. Et cette scène m'avait beaucoup frappée à l'époque, parce qu'on sentait à quel point les policiers eux-mêmes avaient peur, finalement. Donc j'ai tenu à revoir ce film, parce que dans le scénario de Laurent, les deux personnages de policiers, l'un étant un inspecteur de la... comment ça s'appelle,
de l'IGS.
De l'IGS. Et l'autre, donc, qui effectivement assiste, complètement effaré à l'explosion de violence de son collègue. Ces deux personnages sont extrêmement intéressants, avec une vraie épaisseur psychologique, avec leurs contradictions, et cherchant à faire au mieux avec ce qu'ils croient être le bon choix.
Eux aussi, le Laurent-Frédéric
Bollé.
Oui, là, le discours quand même se rejoint, parce que ce que nous avons voulu montrer dans notre livre, c'est que tout le monde a été impacté par l'affaire Malik Oussekine, et en premier lieu, le policier lui-même. Alors, bien sûr, il y a un policier qui a été l'arme de la mort de Malik Oussekine. Oui, il y a un policier qui a frappé Malik Oussekine au sol et qui lui a donné un certain nombre de coups de matraque qui ont résulté en la mort donc de ce pauvre jeune homme. Bon, mais nous mettons en scène un policier du PVM, le peloton des voltigeurs motoportés, qui est donc le témoin direct que son collègue est en train, disons, de péter les plombs, en tout cas de devenir un assassin sous ses yeux. Et là, il en subit lui aussi le contre-coup. C'est évident, et ça rejoint, monsieur Norek, le discours que vous avez tenu, je pense, où là, il y a effectivement une part d'humanité qui ressort, et il y a une limite qui a été franchie, qui même pour lui... Si elle ne lui apparaît pas insupportable tout de suite, c'est évident qu'elle va, ça va au-delà de tout ce qu'on lui a appris ou de ce pourquoi il est censé travailler et respecter l'ordre. Donc nous mettons en scène un policier qui s'interroge. Bon, j'ose croire que ce que nous faisons est intelligent, entre guillemets, à savoir qu'effectivement nous n'avons pas un discours complètement manichéen et que nous mettons en avant effectivement une certaine part d'humanité que nous avons en tous. Et il nous a semblé encore plus fort que si... Ce discours un peu quand même de dénonciation, on va pas l'inventer. Bien
même
sûr, que nous dénonçons cette.
Même si par des personnages symboliques, même si la narration est éclatée, même si on embrasse plusieurs points de vue, donc oui. Aussi plusieurs
donc,
vérités.
Voilà. Donc nous sommes quand même là pour expliquer, montrer et quand même dénoncer une affaire qui a meurtri je pense, la société française et qui n'aurait pas dû exister. Eh bien, si en plus c'est un policier qui était aux premières loges, qui pourrait être encore plus notre symbole le plus fort pour dénoncer ça. Eh ben, c'est peut-être inattendu, mais c'est, je crois, ce qu'on a fait.
Olivier Norek.
Oui, c'est une objectivité qui est tout à votre honneur. Parce que, effectivement, vous disiez que ce sont des gens qui ont peur. Mais oui, après les actes terroristes, après la jungle de Calais, après encore des actes terroristes, après la loi El Khomri, après Nuit debout, et maintenant l'euro, nous avons des policiers qui sont à bout. On a des policiers qui ont peur. Et je les connais, ces CRS. C'est des gamins. Pour la plupart, qui ont entre 19 et 24, 25 ans, qui baissent leur visière, et là, on ne voit que des robots. Mais il faut se souvenir qu'on est en face de gamins, et que ces images de violence dont ils sont victimes, et parfois, évidemment, le policier victime, on ne va pas non plus l'ériger en symbole, évidemment qu'il y a une réponse de ces policiers, et que quand...
Et les policiers bourreaux aussi, dans votre roman.
Bien sûr, parce que j'ai cette même objectivité, parce qu'en fin de compte, on a des sujets, on aborde, vous et moi, des sujets tellement sensibles, que si on devient manichéen, alors on va en vendre deux. C'est bien simple. Si on n'a pas cette objectivité,
ah, c'est l'appât du gain, d'accord.
C'est essentiellement
moi,
l'appât
je
du gain.
Que c'était une cause humaniste.
Mais bien sûr que non.
Ah pardon.
Non.
Justement.
Alors non.
Excusez-moi, je me suis complètement trompée.
Non, non, c'était une fin de phrase qui était maladroite et ironique. Mais effectivement, si on aborde ces sujets aussi sensibles sans objectivité, on ne touchera personne. Les gens ne sont pas dupes et que évidemment, moi, dans mon intérêt, si je veux raconter l'histoire de flics qui vont enquêter de manière correcte, il faut que moi aussi j'ai un flic qui soit borderline et que je puisse présenter sans caricature ni angélisme l'état de la police française. Et que si vous voulez faire une BD en parlant de Malik Houssekine, vous ne pouvez pas mettre d'un côté des anges manifestants à côté de bourreaux policiers.
Voilà,
c'est un message qui ne fonctionnera pas. Donc, autant dans mes livres, il y a des ripoux, autant dans vos livres, il y a de bons flics. Et c'est là que le message devient...
Ils s'interrogent, certains
voilà,
s'interrogent.
Et c'est là que le message devient intéressant.
1, 2, 3...
Vous écoutez Ping Pong sur France Culture, l'émission qui, à l'occasion, en fait l'ange et la bête.
Et justement, on y reviendra à ces deux côtés, à ces deux pièces du Janus qui font non seulement vendre plus, mais aussi faire progresser la vérité avec nos invités qui ont en commun de mettre en avant la toile sociale dans leurs romans et dans leurs BD graphiques. Il s'agit d'Olivier Norek, de Jeanne Puchol et de Laurent-Frédéric Bollet.
Mais tout de suite, vous avez rendez-vous avec Zoé Sfez pour le Journal de la Culture. Bonsoir Zoé.
Bonsoir Martin, bonsoir Mathilde, bonsoir à tous.
Zoé,
bonsoir
Zoé. Vous consacrez ce soir votre dossier au festival d'Annecy, dédié à l'animation. Cette 56e édition met à l'honneur la France, avec plusieurs films en et hors compétition. La France qui affirme chaque année un peu plus son statut de pays phare de l'animation, mais qui doit lutter si elle entend conserver et développer cette industrie très particulière.
Oui, alors le festival d'Annecy, c'est un bon exemple finalement de la place qu'occupe la France en matière d'animation, puisque c'est sa 56e édition. Le festival est né de la volonté d'avoir un vrai lieu pour mettre en valeur sa tradition, son savoir-faire. À l'époque, l'animation, c'était surtout de l'image animée, et c'était plutôt les dessinateurs de BD qui s'y mettaient. Le festival est aujourd'hui l'un des plus importants du monde. Il réunira cette année encore près de 8000 professionnels, et il rencontre finalement l'activité du secteur qui s'est profondément diversifiée, puisque l'animation, c'est aujourd'hui des longs-métrages, aussi évidemment beaucoup de séries audiovisuelles. Ça existe aussi dans le cinéma de fiction, avec la prise de vue réelle, mais aussi dans l'art contemporain. Un secteur qui a finalement beaucoup bougé depuis les années 2000, surtout, explique son délégué artistique Marcel Jean.
Le long métrage était la chasse gardée des grands studios américains pendant très longtemps. Au début des années 2000, avec les évolutions de la technologie, c'est la production de long métrage se diversifier en genre et en technique. De cette façon-là, une véritable production du long métrage qui s'est développée. Ce qui fait que, aujourd'hui, par exemple, nous recevons autour de peut-être 70 longs métrages chaque année. L'industrie française du long métrage d'animation est extrêmement dynamique. Il faut surtout pas oublier dans l'équation que la France est sans doute le pays actuellement qui a le meilleur système scolaire en animation. Il y a plusieurs écoles, il y a une grande variété d'écoles qui sont extrêmement performantes, de sorte que quand on se promène de par le monde dans les grands studios d'animation ou dans les boîtes d'effets spéciaux, on rencontre beaucoup de talents français. Beaucoup de talents français au Canada, beaucoup aux États-Unis. Il y a cette conscience qu'on doit réussir à les retenir.
Il se trouve que la France, Zoé, est aujourd'hui en effet le premier pays en matière d'animation, mais derrière les États-Unis et le Japon.
Évidemment, mais loin devant tout les Européens et tous les autres pays qui ne sont pas les États-Unis et le Japon. Une tradition donc qui remonte, on l'a dit, au secteur de la BD et qui a surtout été boostée par le plan Image mis en place par Jacques Lang, toujours lui, en 1985, qui a permis de faire de la France un des pays les plus actifs sur le terrain de l'animation, donc justement, surtout en termes de programmes audiovisuels. À l'époque, on se rendait compte qu'il n'y avait que des dessins animés américains, japonais sur nos écrans. Aujourd'hui, 45% des séries d'animation diffusées à la télé française sont françaises, c'est plus en proportion que tous les autres. Surtout, il faut le savoir, c'est le genre audiovisuel qui, de loin, de très loin, devant les fictions, les documentaires, s'exporte le mieux. Mais le problème, on l'a dit, c'est la délocalisation, puisque tous les autres pays sont extrêmement compétitifs sur le plan fiscal. Et il sévit notamment en matière de long métrage. Le CNC a donc décidé d'agir. Il a voté de meilleurs crédits d'impôt qui ont pris effet dès le début de cette année. 30% aujourd'hui de crédits d'impôt. Et il n'y a plus de plafond. Le but, c'est de relocaliser la production française, mais surtout aussi d'attirer les grosses productions étrangères. Ça marche déjà plutôt bien, nous explique Frédéric Bredin, la présidente du CNC.
Prennent effet depuis 2016 et je veux dire que les résultats sont au-dessus de nos espérances même, puisque tout de suite on a appris l'implantation prévue de 6 nouveaux studios d'animation à Paris, à Angoulême, à Lyon, à Valence. Donc je dirais la réactivité a été extrême, c'est-à-dire que les productions qui avaient tendance à se délocaliser puisqu'il y avait, il y a malheureusement une compétition internationale en termes fiscaux, eh bien sont tout de suite revenues en France, d'autant plus qu'on sait que la France a vraiment des talents et un savoir-faire exceptionnel dans ce secteur.
Et si ce savoir-faire français est reconnu, Zoé, si les gros tournages reviennent, eh bien, les longs métrages d'animation français ont cependant du mal à exister.
Oui, puisque l'année dernière, alors, on a eu une année assez triomphiste. Deux films français ont extrêmement bien fonctionné, aussi bien en France qu'à l'étranger. C'était Le Petit Prince et Astérix et Obélix, La Colère des Dieux, qui étaient en fait deux blockbusters et qui font un peu figure d'exception, puisque la France, quand elle produit des longs métrages d'animation, c'est surtout des genres dits d'auteurs. On dit que l'animation est vecteur d'emploi, mais finalement, ça n'est que 5300 emplois. Il faut savoir que les films d'animation, c'est extrêmement long à faire. Il y a deux films qui sont présentés aujourd'hui à Annecy, dont l'un dont on attend beaucoup, Ma vie de courgette, film scénarisé par Céline Sciamma, qui est réalisé en stop motion, c'est-à-dire avec des marionnettes. Un film dont on attend beaucoup, qui a rencontré un énorme succès à Cannes, mais encore faut-il qu'il ait la place d'exister. Nous explique Éric Jacquot, il dirige Blue Spirit, qui a construit, on va dire, mis en œuvre ce film, et celle qui a été la directrice technique, Armelle Glorenec.
Bah hélas, non. Enfin, c'est quand on voit un peu ce qui s'est passé dans les deux dernières années sur les chiffres d'entrée, c'est un peu catastrophique, quoi. Donc, on se bat contre des Américains qui mettent autant d'argent sur la promotion du film que sur la fabrication. On est un peu démunis. Donc, voilà. Après, c'est la roulette russe. Enfin, il n'y a aucune statistique là-dessus. Et malheureusement, s'il y en a, elles sont très mauvaises, quoi. Donc, et sur le film d'auteur, puisqu'on considère que c'est encore un film d'auteur, en France, on fait principalement des films d'auteur en animation. Les recettes ne sont pas aujourd'hui monumentales, quoi. Il n'y a pas beaucoup de films qui dépassent le million.
Peut-être une différence par rapport à il y a 10 ans, c'est que il y a 10 ans, les films avaient le temps d'être installés. Quand même, une concurrence qui est arrivée. Et ça veut dire que toute l'offre alternative françaises ou d'auteurs ont aujourd'hui moins leur chance d'atteindre le public, tellement il y a de projets. Du coup, pour Ma vie de courgette, être sélectionné à Cannes, être sélectionné à Annecy avant sa sortie, c'est un moyen de faire de la promotion.
Voilà, alors le CNC a dit qu'il avait bien compris le problème. Autre action mise en place en dehors des crédits d'impôt, c'est d'augmenter la fameuse caisse du CNC dédiée à l'animation pour encourager beaucoup, beaucoup les auteurs, et notamment la prise de risque chez les producteurs. Mais l'un des enjeux surtout, c'est qu'aujourd'hui, les adultes en France se mettent à aller voir des films d'animation. Comme ils consomment du grand monde graphique, ils n'ont pas encore sauté le pas. Donc, on va voir si ça se passe au Festival d'Annecy, qui dure, je le rappelle, jusqu'au 18 juin.
Et vous pourrez voir La jeune fille sans main.
Exactement, ça fait partie des cinq films qui sont présentés, des cinq films français qui seront présentés avec La Tortue Rouge, qui a l'air pas mal aussi.
Voilà, il était avec nous vendredi dernier dans Ping Pong. On passe au Brève Zoé avec un premier mouvement musical.
La nomination du très attendu d'Emmanuel Krivine, le chef d'orchestre comme directeur musical à partir du 1er septembre 2017 de l'Orchestre National de France, l'Orchestre de la Maison. Il va donc commencer en septembre puisque le directeur musical précédent, Daniel Legati, est nommé au prestigieux Royal Concertgebouw d'Amsterdam. Emmanuel Krivine a 69 ans, c'est le premier chef français à diriger l'ONF depuis Jean Martinon il y a 40 ans. Il est réputé autoritaire, mais il a été plébiscité par les musiciens. Son choix rentre dans la différenciation voulue des deux orchestres de Radio France, puisque je rappelle que le Philharmonique, lui, est dirigé par un jeune chef d'origine étrangère spécialisé plutôt dans la musique contemporaine. Je rappelle que les deux orchestres de la Maison de la Radio doivent tenter de trouver une manière d'exister, puisque leur fusion avait été évoquée l'année dernière, ce qui avait valu une très longue grève.
Les autorités israéliennes ont prolongé de 6 mois la détention sans procès du clown palestinien Mohamed Abou Saka.
C'est ce qu'a indiqué l'école du cycle de Bir Zeit en Cisjordanie occupée qui l'emploie. Nous avons le cœur gros puisque sa détention administrative est prolongée de 6 mois. Il y a encore 700 Palestiniens qui sont détenus sous le régime de la détention administrative en Israël. Régime exceptionnel qui permet d'incarcérer des suspects pour plusieurs mois renouvelables sans en notifier les raisons. Elles n'ont jamais voulu, les autorités israéliennes, dire clairement quel danger représente pour elles Mohamed Abou Saka.
Le feuilleton du Modigliani, retrouvé lors des Panama Papers, continue, n'était peut-être pas spolié, c'est ce qu'affirment ses propriétaires.
Je vous en avais parlé de cette toile, l'homme assis de Modigliani, on soupçonnait la riche famille libanaise Namad d'en être la propriétaire, bien spoliée donc via une société écran. La famille avait toujours nié qu'elle avait cette société. Finalement, Panama Papers avait révélé qu'il y avait un lien direct entre cette famille et cette société. Mais la famille Namad vient de changer de stratégie de défense en arguant que finalement rien n'indique que ce soit bien cette toile qui ait été spoliée et qu'elle est appartenue à Oscar Stetenay. La description de cette œuvre au moment de sa spoliation ne correspondrait pas à la toile d'aujourd'hui.
Ping-pong.
Malik Oussekine, Contre-coup, c'est le titre de cette BD, de ce roman graphique, historique et fictionnalisé qui sort chez Casterman Écriture avec nos invités Laurent-Frédéric Bollet et Jeanne Pujol. On va voir ce que cette bande dessinée peut donner en radio lorsque l'on l'ouvre aux premières pages.
Le 18 octobre 2014, il aurait eu 50 ans et le droit de fêter dignement son anniversaire, comme tout le monde. À quoi ressemblerait-il ? Serait-il cet anonyme employé de bureau, agent immobilier ou fonctionnaire ? Serait-il au chômage ? Serait-il seulement marié ? Aurait-il des enfants ? Vivrait-il encore en région parisienne ?
N'aurait-il pas plutôt choisi de retourner sur la terre de ses parents, l'Algérie ? Auquel cas, on peut l'imaginer la peau burinée, les cheveux blanchis par l'âge et les soucis. Il aurait gardé de toute façon son air grave et tourmenté.
Ne serait-il pas devenu prêtre ? Car il en avait manifesté l'intention et avait rencontré des catholiques pratiquants pour le guider dans ce choix. Ainsi, il continuerait de porter sur lui un exemplaire du Nouveau Testament.
N'aurait-il pas pu devenir aussi ce cadre commercial dynamique et légèrement flambeur, toujours bien habillé, à la recherche d'une bonne commission sur ses ventes ? Avec le temps, il aurait gravi les échelons. Il aurait des goûts de luxe. Il rigolerait souvent. Il prendrait ça comme une revanche sur la vie.
50 ans.
50 ans.
50 ans.
50 ans.
Comme cela paraît vieux lorsque l'on n'a encore que 22 ans et qu'on vit à l'automne 1986.
S'est-il projeté une seule fois sur ce qu'aurait pu être son avenir ?
Lui était le Benjamin de 8 enfants.
La famille vivait à Meudon-la-Forêt, dans une tour, sans joie ni charme.
Des immigrés, comme on disait, même si lui était né en France.
C'était comme ça. Il faisait avec.
Lui, Malik Oussekine, donc, qui meurt, frappé à mort à 22 ans, dans la nuit du 5 au 6 décembre 1986, en marge des manifestations et occupations de la Sorbonne contre ce qu'on appelait à l'époque les lois de Vaquet. 30 ans plus tard, vous y revenez, donc, Laurent-Frédéric Bollet et Jeanne Pujol. Vous avez décidé de faire le portrait robot de Malik Oussekine à 50 ans pour démarrer cette bande dessinée. Pourquoi ?
C'est un chiffre, je pense, assez fort dans la vie d'un homme. C'est un chiffre assez symbolique, 50 ans. Et donc, c'est un chiffre, évidemment, qu'il n'a jamais atteint, puisqu'il est mort alors qu'il avait 22 ans. Écoutez, je ne sais plus pourquoi j'y ai vraiment pensé. Voilà, en 2014, il aurait eu 50 ans. Ça m'est apparu comme une évidence au moment où j'écrivais ce livre, puisque certes, il est paru en ce printemps 2016. Il a bien été véritablement écrit à partir de l'année 2014, donc je me suis rendu compte que ça aurait pu correspondre à son 50e anniversaire. Ça m'a semblé effectivement être une date repère, une date forte, pour symboliser évidemment une vie qui n'a pas eu lieu, puisqu'elle a été évidemment arrêtée de façon brutale en décembre 1986.
Jeanne Pujol, elle est arrêtée de façon brutale, donc il faut le rappeler, donc il est poursuivi jusque dans, on va dire, une cage d'escalier, l'entrée d'un immeuble vers la rue Monsieur le Prince, où il reçoit donc des coups de matraque. Qu'est-ce qui apporte dans le récit de se projeter dans ce Malik Oussekine 50 ans plus tard, et aussi d'apporter cette fiction par rapport, on l'a dit, à cette histoire qui peut pas être simplement un devoir de mémoire, une réparation ou une sorte de façon de rendre justice.
Alors déjà, lui trouver des visages plausibles et donc des visages différents pour les différents scénarios imaginés par Laurent Frédéric pour les 50 ans de Malik Oussekine. J'ai travaillé, il y a que deux ou trois photos de mauvaise qualité de Malik Oussekine, donc déjà pour lui dessiner le visage qu'il a, parce qu'il apparaît assez peu, mais il apparaît quand même dans le récit. Il apparaît bien sûr dans la scène centrale où il est frappé, mais le reste du temps il apparaît assez peu, et donc pour moi c'était une double gageure, quoi, de l'imaginer à 50 ans, d'imaginer plusieurs versions à 50 ans, et en plus en ayant des documents aussi peu parlants au départ. Après, la fiction, enfin l'aspect fictif des personnages, finalement, qui sont comme, pour moi, c'est un petit peu comme un cœur antique, en fait. Vous voyez, c'est des gens qui représentent, qui sont pas tant des personnages que les représentants, c'est symbolique, hein, comme tu le disais tout à l'heure, que les représentants d'une profession ou d'une tranche d'âge ou d'un type de comportement. Et ça permet de donner la parole, en fait, à l'ensemble de la société française, hein, parce qu'on a On a, comment s'appelle-t-il, je suis un peu embêtée parce que je travaille déjà sur une nouvelle bande dessinée, donc j'ai le nom des nouveaux, j'ai les noms des nouveaux personnages.
Vous êtes habitué des BD historiques en particulier.
Jeanne Puchol, oui, sous votre trait. Vous êtes en train de donner format à autre chose. N'en parlez pas, sinon ça va vous, savez, ça va vous revenir pendant tout. Donc continuez cette narration en chorale qui répartit la voix entre les policiers, les étudiants, le médecin légiste, les voisins de la famille.
Il y a même un personnage qui est extrêmement attachant, qui est un petit gars un peu paumé, quoi, qui est là, qui s'en fiche de tout et qui lui va vraiment avoir une sorte de révélation, quoi, comme si et il le dit d'ailleurs, c'est comme si le ciel lui tombe sur la tête et qu'il comprenait enfin quelque chose. Et donc pour lui, cette mort est vraiment un révélateur de tout ce qui va pas dans sa propre vie et de la manière dont il s'est tenu à l'écart de choses extrêmement importantes.
Voilà, tous les jeunes n'étaient pas étudiants, donc effectivement, nous mettons aussi en scène un jeune qui n'est pas étudiant, à qui ça passe complètement au-dessus, ce genre de problème de la réforme de Vaquer, mais qui lui aussi va subir le contre-coup de cette affaire, puisqu'en quelque sorte, sa conscience va un petit peu s'ouvrir. C'était ça le but. Vous avez entendu dans cet extrait
Laurent-Frédéric Bollier. Vous êtes respectivement scénariste et dessinateur. Oui. Juste, je dis,
sur la BD. Merci en tout cas pour...
Dessinatrice.
Je vous remercie beaucoup pour cet extrait qui
m'a touché. Par Thomas Beau, il est coupable.
Effectivement, c'est un certain effet que d'entendre en quelque sorte ces mots, SES bien sûr. Eh bien, vous avez entendu qu'il y a pas mal de contradictions dans ce portrait que nous dressons de Malik Houssekine. C'était quelqu'un, effectivement, qui, je crois, on peut le dire, se cherchait dans sa vie. Et cette histoire, bah, effectivement, elle est ni blanche ni noire. Elle n'est pas manichéenne, effectivement. Donc, c'est bien à l'image de ce qu'on a voulu faire. C'est qu'à un moment donné, on embrasse un petit peu tout et on essaye de mettre l'humain au centre et de certes raconter une histoire terrible, mais en même temps, effectivement, d'essayer d'aborder un petit peu tout ce qu'il y a autour.
Olivier Norek, dans votre nouveau polar, Surtension, chez Michel Lafon, on est aussi entre chien et loup, et loin du noir et blanc, on est aussi avec une myriade de personnages, on est aussi dans la fiction, on parlait à l'instant du parti pris de fiction de Jeanne Puchol et Laurent-Frédéric Bollet. Vous, écrire des polars, vous le disiez tout à l'heure dans la première partie de cette émission, c'est d'abord pour mettre en lumière une réalité sociale, pour évoquer, éclairer, élucider les choses qui vous ont révolté durant votre carrière, vos 15 ans au sein du SDPJ du 93, du service départemental de la police judiciaire, que ce soit donc les trafic des chiffres de la criminalité, l'état de la justice, l'état des prisons dans ce nouveau roman. Mais est-ce que c'était pas aussi, écrire des polars, une façon de faire, de réaliser, de réussir les coups que seuls les flics peuvent connaître? Eux, ils sont bien informés sur un certain nombre de coups, braquages, cambriolages possibles, qui peuvent pas se permettre en général, qui ne se permettent pas parce qu'ils ont une morale, comme vous le disiez. Sur le papier, c'est un plaisir aussi de, sinon monter au braquage, du moins de réaliser des gros coups. Comme c'est le cas pour les personnages de votre roman.
De se mettre dans la peau du criminel, en fin de compte.
Disons-le comme ça.
Oui.
Mais en étant informé, parce que justement, du coup, on y est vraiment grâce à vous.
Oui. Il y a un contrat que je passe avec le lecteur. Le lecteur sait que dans mes romans, 90% de ce qu'il va lire s'est passé ou est totalement vraisemblable. Donc, tout ce que je dénonce, vous parliez tout à l'heure de dénonciation sociale, mais surtout politico-sociale, tout ce que je dénonce est vrai. Il y a pas d'angélisme. J'ai eu envie à la fois de remettre le flic comme il était, le flic de maintenant, c'est-à-dire qu'on a trop tendance à penser que le flic est quelqu'un qui se réveille en buvant un verre de whisky, qui se termine avec la soirée avec un rail de coke et si possible
sa copine. Ça n'a aucun rapport avec la réalité.
Si en plus sa copine peut être une prostituée, alors là on a le tableau parfait. Donc voilà, j'ai eu envie de mettre sur le devant le flic des années 2000.
Pardon, mais les coups aussi que réussissent les voyous dans votre roman, ils sont aussi possibles. Ce sont des modes d'emploi. Hein.
Oui,
que vous écrivez comme vous faites
alors,
des enquêtes.
Effectivement, je monte le braquage de la salle des scellés du tribunal de grande instance de Bobigny. Alors, sachez, cher auditeur, que si vous pensez que Surtension est un manuel du parfait criminel pour le braquage de la salle des scellés du TJ de Bobigny, que je l'ai truffé d'inexactitude pour que vous terminiez en prison, évidemment. Je fais toujours attention de flouter, de travestir un petit peu tout ce qui pourrait gréver le travail des flics. Mais maintenant, est-ce que c'est agréable de se mettre dans la peau du criminel? Évidemment, c'est un coup de chaud, c'est un coup de pression.
Mais votre salon est peuplé de criminels en plus, parce que vous dites que quand vous êtes en train et après même que vous ayez fini le manuscrit, vous continuez à dialoguer avec vos personnages qui sont dans votre salon.
Pire que ça, quand je monte une enquête de police. En fait, quand j'écris un livre, je la considère comme une enquête de police. Et autant j'ai besoin d'experts, de spécialistes, que ce soit dans le métier de la police, de la justice ou même de criminels ou en prison, j'ai besoin de ces gens pour avoir les bonnes informations. Et une fois que je les ai, je mets tout sur un mur, qui est un vrai mur de serial killer, sur lequel il y a des photos, des points d'interrogation, des ficelles, des traits, des flèches. C'est un peu comme si, et l'image n'est pas très jolie, mais c'est un peu comme si je me tirais une balle dans la tête de d'auteur et que tout ça atterrissait sur mon mur et que toute cette histoire est comme ça en puzzle sur le mur et que c'est à moi.
À la radio.
Voilà, et que c'est à moi de tirer les traits et de tirer les ficelles pour que, à la fin, ce puzzle termine évidemment en apothéose avec un climax auquel le lecteur ne s'attend pas.
Usual Suspect.
Façon Usual Suspect, quand la tasse se casse aussi, et qu'on trouve le nom effectivement du méchant derrière Kaiser Soze.
Ping-pong. C'est déjà fini.
Eh bien, merci.
Et qui est coupable?
Tous trois. Bah, en tout cas, on a peut-être des petites lumières, comme ça, des petits éclairs de vérité, grâce à vous trois. Donc, Jeanne Puchol et Laurent-Frédéric Bollet, en tandem, en association de malfaiteurs, vous signez Contre-coup. Je le disais, cette sorte de tombeau graphique, hommage de tragique à Malik Oussekine, publié chez Casterman Écriture. Quant à vous, Olivier Norek, vous êtes l'auteur de Surtension, les nouvelles aventures de Victor Coste et de son groupe de la police criminelle. C'est chez Michel Lafon.
Le ping-pong est une intrigue radiophonique qui se résout en équipe. Et quelle équipe? À la rédaction, Aïssat Wendoy, Hélène Delis et Mathilde Cadreau. À la réalisation et la programmation musicale, Thomas Beau. À l'interprétation de la bande dessinée tout à l'heure, que vous avez entendu, Mathilde Cadreau, Mélanie Chalandon et Xavier Martinet. À la prise de son ce soir, Anthony Thomasson et Nicolas Delmas.
Mais qu'en sera-t-il demain, Mathilde?
Demain, ce sera écrivain en Sibérie et poète en musique. Nous fêterons les 20 ans de carrière de Mathieu Bogartz et le premier grand rôle de performance d'acteur de Raphaël Persona.
Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Denis Podalydès de la Comédie Française.